Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polotech.
Et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous Bonjour. Recevons aujourd'hui Alain Jomy pour son documentaire « Ils étaient juifs et résistants » qui sera diffusé sur la chaîne Toute l'Histoire, notamment le 17 mars à 21h40 et qui est rediffusé, multidiffusé tout au long du mois de mars. Avec ce documentaire, vous revenez sur la présence importante des juifs dans la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale et sur les motivations qui les ont poussés à s'engager. On connaît bien sûr les grands noms de René Cassin à Pierre Mendès-France qui ont rejoint Londres et les forces libres françaises auprès du général de Gaulle. Mais votre documentaire cherche surtout à faire entendre les témoignages de tous ces anciens résistants qui étaient restés en France tout au long de la guerre, en zone occupée ou en zone sud, et dont l'engagement a évolué bien souvent de ce qu'on appellerait aujourd'hui la résistance civile à la résistance armée. Alors, votre film réussit à cet égard une prouesse de démêler les chevaux d'une histoire complexe et pas toujours facile à reconstituer et à rendre claire dans sa cohérence globale. Alors, pour commencer, Alain Jomy, comment vous les avez rencontrés, ces résistants? À quel moment vous les avez interviewés?
Alors, les entretiens ont été filmés entre le plus gros des entretiens entre le 6 juin et 2013 et le, je sais plus, 4-5 juillet 2013 aussi, avec quelques entretiens plus tard, en fin d'année, pendant le montage.
Donc il s'agit vraiment de
Alors, ils étaient tous
d'entretiens très récents.
Ah oui, c'est relativement, je dirais, c'est récent, oui. Ils avaient une moyenne d'âge, je dirais, de 88 ou 87, le plus jeune, c'est Raymond Kojitski, à 99 ans à ce moment-là, c'est Irma Miko, celle qui faisait le travail allemand, et Guy de Rouville, qui était le chef du maquis du Tarn.
Et alors, qui ils étaient, ces jeunes gens qui se sont engagés dans la résistance?
Alors, ils étaient de sources diverses. Bien évidemment, c'était des gens, par définition, il y avait quelque chose en eux qui refusait l'ordre imposé injuste, parce qu'il y a des ordres imposés qui peuvent éventuellement être justes, mais celui-là, c'était évident que les Juifs, dans leur ensemble, à moins d'être complètement myopes, se rendaient compte qu'il y avait du danger dans l'air tout de suite. Ils étaient tous, d'abord ils étaient jeunes, je pense que pour faire une résistance efficace, bien sûr qu'il y a eu des gens dans la résistance qui avaient la quarantaine, la cinquantaine, etc. Moi, j'en ai connu quand j'étais enfant, puisque je suis assez vieux pour ça maintenant, mais la plupart étaient adolescents jusqu'à 20, 22 ans. Donc, il y avait ça, ils étaient jeunes, il y avait quelque part, il fallait qu'il y ait quelque chose qu'il y ait de l'idéalisme en eux. C'est-à-dire, ils avaient soit une formation politique, c'était ceux qui étaient des jeunesses communistes, et il y avait ceux qui sont les anciens EI, enfin qui étaient les EI tout court. À l'époque, ils n'étaient pas anciens EI, ils étaient membres des éclaireurs israélites. C'est une des bases de la formation des résistants. Maintenant, il y en a des tas d'autres. Et il y a des gens qui étaient... Il y avait aussi le mouvement des jeunes sionistes. Enfin, il y avait tous ceux qui avaient quelque chose déjà en espèce de cadre dans leur... comment je dirais, dans leur vie, dans leur tête, dans leur vie, dans leur, même dans leurs affects aussi, parce que c'était une réaction à la fois profonde et épidermique, c'est-à-dire on ne pouvait pas supporter, donc il fallait faire quelque chose, donc il fallait qu'en eux quelque chose retentisse.
Vous débutez votre film donc avec la défaite française, mmh. et les premiers mouvements de résistance civile, donc notamment le comité AMLO, oui. C'est là que tout commence.
Enfin, c'est un des endroits où ça commence, parce qu'en réalité, plein d'événements étaient simultanés. C'est maintenant qu'on arrive à s'en rendre compte. Pendant très longtemps, les uns ont raconté leur histoire, les autres ont raconté leur histoire. C'est pour ça qu'on a plein de films qui concernent les FTP-MOI, qui sont des films tout à fait excellents d'ailleurs, et puis qu'on a des films qui concernent aussi les anciens EI, mais en réalité, et puis les autres mouvements, mais en réalité, il se passait plein de choses en même temps. Ça commence, je pense que, en ayant rassemblé ces différents témoignages, en ayant aussi lu pas mal, vous imaginez pas mal de choses, en ayant rencontré des gens que je n'ai pas filmés, j'ai fait une espèce, il y a inévitablement une espèce de casting, comme on dirait, parce que, il y a des gens qui expliquent mieux que d'autres, etc., il faut que ça passe pour le public. Il y a eu d'abord une phase d'abord de défense, mais de défense dans le sens, ce qu'on se rappellerait la défense passive, c'est-à-dire il fallait aider, parce qu'il y a eu toute une population qui était en difficultés. Il y avait déjà, que ce soit les communistes qui étaient clandestins à ce moment-là, ou les autres, il y avait
plein... c'est ça, c'est solidarité.
C'est en même temps tout ça. C'est-à-dire que la rue Amelot, solidarité et quelques autres, parce qu'il n'y a pas que ceux-là, ceux-là sont peut-être les plus évidents. D'abord, il a fallu aider les gens, particulièrement des femmes qui étaient seules avec des enfants ou des gens âgés, en fait, dont le gagne-pain était au front. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 30 000 environ, je crois, juifs étrangers qui se sont engagés dans la Légion étrangère pour défendre la France contre les Allemands, etc. Donc il y avait plein de gens au front, il y en avait plein qui ont été faits prisonniers, il y en a plein qui étaient dans la débâcle. Donc il y avait toute une population qui est restée, tout le monde n'a pas fui Paris en juin. Donc il y avait d'abord, il fallait tout de suite aider au jour le jour. Donc c'est là où ces comités, qui existaient déjà avant la guerre... surtout la rue Amelot, je veux dire qu'il y avait des soupes populaires, enfin, il y avait différentes choses, qu'il y avait un vestiaire qui habillait les gens. Ils étaient là pour ça aussi, pour aider. Et puis, il y avait ce que raconte par exemple Frieda Wettenberg, il y avait des patronages, ça a continué, ça ne s'est pas arrêté pour autant. Donc il a fallu d'abord on colmate les brèches, on essaye d'aider. Après...
travail presque social, finalement.
C'est un travail social, puisque soudain, tout croule. Je veux dire, quand on écoute... Moi, j'ai connu, bien sûr, des gens qui ont fait l'exode. Mais ma mère, pour commencer, racontait ça. Elle avait le sentiment, elle, qui était venue en France et qui trouvait ça, la France, quoi, le pays des droits de l'homme, du citoyen, de l'affaire Dreyfus à réviser, d'Émile Zola, de Victor Hugo, de tout ce qu'elle avait appris là-bas. Soudain, tout s'écroulait. Et elle a dit, quand on a vu les soldats fuir, on s'est dit, c'est fini, quoi. C'est la fin du monde ou la fin de l'histoire. Bon. Et donc, il fallait d'abord commencer à arranger ça. Après, il y a, comme on dit, c'est comme quand on plonge vers le fond, on rebondit lentement, mais progressivement. Alors après arrive le travail de propagande.
Voilà, c'est ça. Très rapidement.
Parce que...
Dès Vichy, c'est-à-dire la défaite, rapidement...
Rapidement, dès Vichy, ça commence bien sûr, vous savez qu'il y a ceux qui sont partis immédiatement en Angleterre. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais ça en fait partie. C'est pour les mêmes raisons. Ils étaient souvent pas obligatoirement plus âgés. J'ai connu des gens, maintenant il y en a plusieurs qui sont décédés, mais il y en a qui sont partis à 16 et 17 ans en Angleterre, avec ou sans l'aval de leur famille. Donc il y a après, effectivement, on dit attention. Donc quand on dit attention, on commence à dire, écoutez, faites attention, et on commence à non pas saper le moral des Allemands, bien sûr c'est pas ça le truc, mais on commence à contrer cette douce apparition, puisqu'au début, l'apparition des Allemands en zone occupée n'était pas censée être violente. Ils mettaient partout des belles affiches pour dire comme ils aimaient les enfants. On voit des photos, des affiches avec le soldat allemand et le petit enfant sur le bras, et puis donner des concerts de musique militaire aux Champs-Élysées et ailleurs. Bon, c'était la propagande d'Achtafel qui avait travaillé. On donne une belle image. Ben non, eux, ils ont fait ce qu'il fallait. Enfin, progressivement, pas tout de suite, pour commencer à dire non, c'est pas tout à fait ça. Donc ils ont commencé, il y a les simples, ça commence par les inscriptions sur les murs, ça commence par, je sais plus, j'ai lu quelque part, quelqu'un disait les premiers tracts qu'ils ont faits, ils les ont écrits à la main. Ça leur sortait comme ça d'eux-mêmes. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, etc. Bon. Et ça commence comme ça, et progressivement, ça avance. L'action armée est en fait souvent en dernier. Parce qu'il faut la préparer aussi.
Vous évoquez aussi un aspect peu connu. Ce sont ces femmes juives germanophones qui avaient pour mission de démoraliser les soldats allemands eux-mêmes. C'est-à-dire que là, la propagande n'était plus auprès de la population française, mais des Allemands. Ouais.
Ah oui, alors ça, c'est un épisode qui est relativement pas très connu. Bien que, alors, là, dans le film, c'est Irma Miko que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer et interviewer. Il y a eu tout un film sur elle qui s'appelle Das Kind. Qui a été fait par un réalisateur qui s'appelle Jonathan Levy, qui est tout à fait épatant, qui est un film de long métrage. Alors, parce qu'elle, j'allais dire, elle mérite. Cette histoire mérite un long métrage. C'est raconté aussi dans certains ouvrages, bien sûr. Et il y a un roman, je n'ai d'ailleurs pas sûr que c'est tout à fait un roman, un livre d'Olivier Todd qui s'appelle J'ai vécu ces temps, je crois, ou En ces temps, qui est sorti un peu discrètement et qui raconte l'histoire de la meilleure amie de sa mère qui faisait ça. Et qui, dans l'histoire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de la fiction, a une liaison avec un officier allemand qui n'est pas sympathisant nazi, mais qui est dans l'armée. Bon. Or, ces femmes, c'était toujours des femmes, Elles ont fait un travail incroyable. L'idée, c'était de démoraliser les Allemands. Ça vient plus tard. Hein. C'est vers 41-42.
Ah oui, d'accord. Quand l'armée allemande commence à connaître
ses premiers échecs. Puisque Irma Miko raconte que, bon, elle était une jeune femme, elle était très plaisante à regarder. Elles allaient en général par deux ou trois. Et elle s'installait comme ça dans des lieux où il y avait des... Elle repérait. Mmh. Il fallait être, je pense, avoir un coup d'œil psychologique intelligent, parce qu'elle repérait les Allemands qui étaient seuls. Et il fallait non seulement les repérer seuls, mais aussi repérer, faire attention, parce qu'il y avait des provocateurs. Et deux ou trois d'entre elles se sont fait avoir par des types qui se sont fait passer pour des pas très nazis et qui finalement étaient de la Gestapo. Et elles ont été arrêtées, elles ont disparu. Mais Irma Miko, qui avait une tête qui fonctionnait admirablement, puisqu'elle avait jusqu'à 30 rendez-vous par jour avec des gens, et pour les uns, alors elle s'appelait comme ci, pour d'autres elle s'appelait comme ça, elle était alors... Donc l'idée c'était que ces femmes se mettaient par exemple un café, mais pas à la table à côté, mais un peu plus loin, mais assez près pour que à une table d'intervalle, il y ait un Allemand qui entende parler allemand. Et après elle parlait, il fallait qu'elle parle, elle parlait toutes très bien allemand. Elle était de Tchernovitz. Il y en avait d'autres qui étaient allemandes, autrichiennes, etc. Et alors, les types venaient. « Ah, mademoiselle, vous parlez allemand, c'est formidable, etc. » Et elle, comme elle dit, ils croyaient qu'ils faisaient une touche sentimentale. En réalité, elles attaquaient de front. Et elle disait, vous croyez que vous êtes... Parce qu'elle dit, ils se croyaient les seigneurs du monde déjà, mais nous, on leur disait, vous avez déjà perdu la guerre. Alors, évidemment... et elles recommençaient, elles l'ont fait ça des centaines de fois. C'est pas 10 bons hommes, 15, c'est des centaines. Là-dedans, il s'en est trouvé une douzaine qui ont aidé la résistance française.
Qui étaient certainement socialistes.
Oui, bien sûr, qui étaient des non-nazis. Quoi, oui, parce qu'il y a eu quand même des non-nazis, mais ils étaient enrôlés dans l'armée. Quoi, bon. Sinon, ils étaient déserteurs. C'est compliqué, l'histoire. Et donc, qui ont même fourni des armes.
Oui.
Bon. Et puis, il y en a eu trois qui ont été complètement retournés et qui ont rejoint les barricades de la libération de Paris du côté des résistants.
Oui, ça, c'est une histoire absolument
c'est une histoire. Incroyable. Je l'ai entendu, je me suis dit, attends, je rêve. Et puis, ça m'a été confirmé. C'est formidable.
Alors peut-être avant de venir à cette partie importante donc, de la résistance armée, il y a aussi, vous allez me dire si c'est parallèlement ou pas, il y a les mouvements comme l'OSE, puis le réseau Garel.
Absolument,
qui,
oui.
Eux vont faire...
Alors c'est autre chose. Oui, alors, dans mon film, malheureusement, enfin, j'ai filmé quelques personnes qui ont fait du sauvetage, parce que la résistance, ça a mis très longtemps à être admis par les résistants combattants, si j'ose dire. Cette résistance dite de sauvetage. Elle était aussi... indispensable, je veux dire. Elle était souvent le corollaire, je veux dire, par exemple, je sais que chez les FTP, MOI, enfin chez les résistants communistes, il y avait des gens qui se sont occupés quand même de placer des enfants, de cacher les enfants à la campagne ou ailleurs, mais enfin de les planquer. Bon. Ça a été vraiment systématisé par des réseaux comme le réseau Garel ou à Nice par Moussa Abadi, le réseau Marcel, je crois me rappeler. Bon, et des choses comme ça... Dans la série de films où se situe le mien, il y a déjà eu deux films là-dessus. Donc on m'a dit, écoute, on est désolé, mais alors j'ai réussi à sauver un peu, j'ai sauvé Lily Garel. Et je suis content qu'on la voit quand même, parce qu'elle est décédée peu après. Parce qu'effectivement, il y avait un rapport, c'est-à-dire elle racontait bien un dilemme qui a été rapidement réglé. Son mari était ami de Claude Bourdet. Claude Bourdet était dans un mouvement de résistance extrêmement actif. Et il pouvait... aller avec Bourdet, puis il a finalement choisi un endroit où il y aurait moins de volontaires pour travailler là-dedans, parce que c'était extrêmement difficile et risqué. C'était pas emmener un gosse simplement à la campagne et le mettre chez des gens, c'était en faire passer des centaines, et quand je dis des centaines, c'est plus que ça.
Alors le basculement dans la lutte armée, ça va être l'attentat de Barbès-Rochechouart.
C'est le premier vraiment très flagrant, c'est-à-dire que, à la différence des autres mouvements, les communistes... À partir du moment où il y a eu l'invasion de l'URSS, le Parti communiste a permis d'aller vers le combat. Mais le combat était impossible à ce moment-là, parce qu'une personne n'était vraiment préparée. Par contre, des actes individuels devenaient possibles. Et celui qui a fait donc l'attentat de Barbès-Rochechouart à la station de métro, qu'on appelait le colonel Fabien, qui est Pierre-Georges avait un passé de combattant, parce qu'il avait fait la guerre d'Espagne. Et pas mal de combattants de la guerre d'Espagne, qu'ils soient français, qu'ils soient des juifs de la brigade Botfin, qu'ils soient italiens, etc., ceux qui se sont retrouvés en France sont entrés dans la résistance. Par exemple, dans la brigade Marcel Langer, celle de Toulouse, FTP de Toulouse, il y avait des Espagnols, il y en avait même pas mal, il y en avait ailleurs. Alors, donc, effectivement, à partir d'un certain point, on a ouvert la vanne, en quelque sorte, l'autorisation a été donnée d'en haut. Les autres mouvements ont mis plus longtemps. Puis d'abord, il fallait être préparé, car le problème, c'était avoir les armes, savoir s'en servir. C'est pas tout d'avoir des pistolets, parce que, comme dit l'un des personnages, on n'avait pas assez d'armes et puis on ne savait pas s'en servir.
Alors, on va voir si on a le temps de revenir peut-être sur justement les FTP et MOI, bien sûr la fiche rouge, qui sont les mouvements les plus emblématiques, les plus connus. Mais j'aimerais qu'on évoque aussi le rôle des éclaireurs israélites dans cette résistance juive.
Alors, les éclaireurs israélites étaient, je ne sais pas s'il en est resté dans la zone occupée, mais dans la zone sud, ils étaient partout, ils étaient en plein endroit. Ils ont fait un énorme travail à la fois pour structurer les jeunes dont ils avaient la charge. Ils ont ouvert des maisons d'enfants. Enfin, il y a eu l'OSE, les éclaireurs, tout ce monde-là a fait des choses dans le domaine de l'aide aux enfants. Et puis, ils ont sorti des gosses comme l'OSE l'a fait. Ils ont sorti des enfants. Souvent, les gens travaillaient pour l'un et pour l'autre, étaient dans l'un et l'autre. Hein. Il faut dire, il n'y a pas de... si on a, les uns ont raconté une histoire, les autres ont raconté une autre histoire, les deux sont justes, et s'ils les ont racontés différemment ou séparément, c'est parce qu'en même temps, ils ont continué le clivage qu'il y avait dans la résistance, puisqu'il ne fallait pas... Les bons résistants, c'était ceux dont on ne pouvait même pas deviner qu'ils l'étaient. Donc, il ne fallait pas trop faire savoir. Et ça a souvent continué, même après la guerre. Les EI ont fait alors un boulot formidable à partir du moment où il y a eu la maison de Moissac, qui existait déjà avant la guerre. Il y a eu ce couple formidable qui s'appelait Chata et Bouli Simon, et qui ont accueilli mais un nombre considérable d'enfants, qu'ils ont tiré d'affaires, on a sorti des gosses des camps. Il y avait des gosses, des juifs, des gosses juifs allemands, autrichiens et autres qui étaient mis dans les camps. On en a sorti, plein de gens que nous connaissons ont fait le travail. Et puis après, à un moment, ils ont d'abord évacué les gosses, parce qu'il y a eu le moment où on a prévenu qu'il allait y avoir des rafles dans la zone sud. Il y en a eu une où on n'a pas évité, où il y a eu 10 000 personnes raflées, l'été 42, mais il y a eu ensuite ils n'en ont pas attrapé autant. Et dans cela, il y a eu des futurs résistants, les plus grands. Celui qu'on a dans le film, Jacques Rosenzweig, qui malheureusement est décédé quelques temps après le tournage, racontait que lui, il a été à la ferme de Lautrec, donc cette ferme école, parce que l'idée des EI était en fait... il y avait dans ces mouvements-là l'idée en fait d'aller ensuite en Palestine, donc pour être à Lutz, donc pour être pionnier, etc. Donc on leur apprenait les métiers de la terre, ce qui était d'ailleurs excellent pour ces gosses qui venaient souvent des villes et qui ne savaient rien de la nature. La guerre a été pour beaucoup de ces enfants et des jeunes une extraordinaire expérience de découverte de la nature qu'ils ne pouvaient pas connaître parce qu'il n'y avait pas les moyens de les envoyer en vacances et des choses comme ça. Et ces gens-là, on leur a appris progressivement les choses, et après... il dit, mais il n'est pas le seul, on leur a proposé, bon, maintenant, où on vous planque, où, il a dit, où, j'ai pris la résistance, comme si on l'avait... Bon. Et à partir de là, il fallait les former. Donc là où ça a été bien formé, il y avait des militaires de carrière qui ont formé les gens, mais pas partout. Ça a été compliqué. D'une part, il y avait le problème de l'armement, et d'autre part, il y avait le problème de savoir s'en servir.
Alors, ces jeunes gens, c'est ce qui va devenir la sixième, c'est ça ?
La sixième, oui. Parce que sixième section, la jeunesse, les scouts étaient la sixième section de la jeunesse à l'UJIF. C'est pour d'où la sixième. Ou, alors, l'armée juive, qui est encore une autre chose, c'est encore une autre émanation. Ils s'appelaient entre eux Armand Jean ou Armand Jules, je ne sais plus très bien, mais c'est Agi. Donc, il y avait quand ils se rencontraient, il fallait que l'un dise êtes-vous Armand, l'autre disait non, je suis Jules ou je suis Jean. Enfin, il y avait des choses comme ça. Vous savez, les signes de reconnaissance étaient faciles. Quand Rena Kamianetsky raconte que première rencontre avec Krasutsky, qui était son jeune chef le militant qui devait la recruter. Elle avait rendez-vous avec lui au bois de Vincennes, il devait avoir un journal sous le bras, comme elle dit, c'était classique, quoi. Mais c'était les choses comme on l'imagine dans les films.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de de l'armée juive, et notamment du maquis de Vabre qui est...
Alors, le maquis de Vabre, qui est... Alors, c'est un des maquis. Il y a eu plusieurs maquis dans cette zone qui est la Montagne Noire et et tout autour de la zone de Mazamet et au-dessus de Castres. Inévitablement, les maquis, c'est pas dans la plaine. C'est pas là où il n'y a aucun endroit pour se cacher. C'est là où il y a des arbres. Donc, le Massif central, le Limousin, le Haut-Limousin particulièrement, le Tarn, certains coins du Tarn et Garonne étaient des endroits propices. Les Landes aussi, il y en a eu, et il y en a eu dans les Pyrénées. Alors donc, il y avait là, il faut dire aussi, un bastion fort, par exemple, Guy de Rouville, les protestants. Et comme vous savez, les protestants, dès qu'il y a eu la loi contre les juifs, ils ont eu tout de suite une espèce de son de cloche qui a retenti dans leur tête, ça a évoqué le souvenir de choses très pénibles que leurs ancêtres avaient vécues. Donc, ils ont été parmi les premiers à donner la main. Alors, il y a eu dans cet endroit-là, lui, il avait une usine, et toute l'usine était quasiment dans Aidet. Le village Aidet, l'usine Aidet. Dans ces endroits-là, a fleuri un maquis relativement important, pas toujours bien formé, mais parfois très bien formé aussi. Je veux dire, quand ils ont fait venir du noyer de Segonzac, quand ils ont fait venir d'autres gens, ils avaient affaire à des gens chevronnés. Donc, ils les ont formés comme ils ont pu. Et ils ont eu surtout du matériel pour lutter à partir du moment où il y a eu le débarquement. Là, les alliés ont envoyé beaucoup d'armement. Et avant, ils suppliaient, ils n'en avaient pas assez. Bon. Et donc, à partir de là, ils ont fait leurs actions. Alors, il y a la fameuse histoire du train de Mazamet à Castres. Alors, je sais que ça a fait des scissions, par exemple, chez les EI, après la guerre. Il y en a qui ont quitté les EI, furieux, alors qu'eux, ils avaient fait un travail de fourmis, qu'ils avaient sauvé du monde au quotidien, qu'ils en avaient planqué, etc. Les autres, qui avaient fait une ou deux choses comme ça. Ah, on en fait tout un plat. Or, ce plat, si j'ose dire, il est symboliquement énorme. Je veux dire, ces types qui arrêtent, ils n'étaient pas tous juifs, mais ils étaient majoritairement juifs, qui arrêtent un train chargé à ras-bord de munitions, avec beaucoup moins de soldats, mais des soldats armés et entraînés, et qui leur disent, les autres se rendent, et qui leur disent, alors le de Noël de Segonzac les fait passer en, les fait défiler devant les vainqueurs, en quelque sorte, et le type qui est juif alsacien donc dit en allemand ich bin Jude devant les types, et les types étaient sûrs qu'ils allaient être liquidés sur le champ. Alors comment c'était Rosenzweig, et quand je l'ai eu au téléphone la première fois, je lui ai demandé, mais la vengeance n'est jamais venue dans votre tête par hasard, il n'y a pas pensé, et il m'a répondu, la vengeance n'était pas le propos, que je trouvais très beau. Il ne me l'a pas dit pareil, de la même manière quand on l'a filmé, mais il l'a dit joliment aussi, puisqu'il disait, nous on était des êtres humains.
Oui.
Et je pense que c'est ça leur leçon, c'est ça, c'est qu'ils ont réussi à l'être dans quoi, tout ce qu'ils ont fait. Et c'était. Bon, moi, pour moi, c'est. Ils ont tous fait quelque chose. Je veux dire, chacun à leur manière a contribué à ça. Alors, c'est sûr, on a beaucoup parlé des FTP-MOI, et un ancien EI m'a dit, mais au fond, c'est eux qui ont fait le boulot. D'accord, mais les autres l'ont fait aussi. Ils l'ont fait d'une autre manière, et tout ça était. Tout ça se combinait et se rassemblait, et à la fin, on a quand même, ils ont tous œuvré pour la même chose. C'était à la fois pour sauver les Juifs, d'une part, autant que possible, et d'autre part, pour défendre le pays où ils vivaient.
Après tous ces entretiens que vous avez eus avec ces résistants, vous parleriez d'une spécificité de la résistance juive, ou au contraire, comme on a pu le voir dans le Vercors notamment, vous considérez qu'elle a été finalement intégrée dans la globalité de la résistance française?
Elle a fini par être intégrée dans la globalité de la résistance française. Je pense qu'au début, elle était cloisonnée. Pareillement, c'était cloisonné aussi. C'est-à-dire que les FTP-MOI, par exemple, dont on a beaucoup parlé, il y avait la section juive. C'était bon. Parce que, il faut dire que c'était parce qu'ils parlaient yiddish, souvent. C'était ça. Et je ne sais plus qui disait dans un film, mais tout le monde se parlait yiddish. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Je pense que c'est sûr, chez les EI, où il y avait beaucoup plus de, comme on dit, d'enfants d'israélites, c'est-à-dire d'enfants de juifs de France, d'Alsace, de Lorraine, du sud-ouest ou du midi, ils étaient d'abord probablement, ils étaient français, juifs. Mais c'était, comment je dirais, finalement, ils se sont tous retrouvés. À la fin, d'ailleurs, c'est pas par hasard que ceux qui ont pu, certains ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'étaient pas français encore à ce moment-là, et on en a barré comme ça quelques-uns qui avaient fait des choses formidables, ils sont rentrés dans l'armée française à la fin. Il y a pas mal qui ont fait quand même la campagne de France, l'Alsace, dont par exemple Laurent Goldberg, qui avec la deuxième DB, il est allé jusqu'au Nid d'Aigle. Donc, bon, à la fin, effectivement, par exemple, Laurent Goldberg, il a commencé comme jeunesse communiste, il était d'un quartier très populaire où il y avait plein de juifs, mais il a terminé avec l'armée française. Il n'est pas le seul dans ce cas-là.
Je vous remercie beaucoup, Alain Jomy, d'être venu. Je rappelle que votre documentaire « Ils étaient juifs et résistants » sera donc multidiffusé sur la chaîne Toute l'Histoire au mois de mars, avec une diffusion notamment le 17 mars à 21h40. C'était « Mémoire vive ». Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.